Chapitre 17. Le triomphe de la logique. Dès que Tailin le lâcha, Matt sortit du palais d'un pas relativement digne. Mais il aurait couru s'il avait cru que ça pouvait servir à quelque chose. Entre ses omoplates, sa peau picotait tant qu'il en oublia les dés qui roulaient dans sa tête. Le pire moment d'une longue liste d'Avani s'était présenté quand Beslan, taquinant sa mère, lui avait conseillé de se trouver un mignon pour les balles. Riant aux éclats, Tailin avait répliqué qu'une reine ne pouvait pas consacrer du temps aux jeunes hommes. Tout ça sans cesser de regarder Matt avec ses fichus yeux d'aigle. Au moins, à présent, il savait pourquoi les lapins couraient si vite. À grands pas rageurs, il traversa l'esplanade molle à ras sans rien voir. Si Elaine et Nineveh avaient été en train de faire trempette avec Caridine et Elaïda dans le bassin de la grande fontaine, celle dont la statue représentait une reine morte depuis des lustres, il ne s'en serait pas aperçu. La salle commune de la vagabonde lui parut relativement fraîche, après la canicule de l'extérieur, et il fut ravi d'enlever enfin son chapeau. Un nuage de fumée de pipe flottait dans l'air, mais les volets ajourés des grandes fenêtres en forme d'arche laissaient passer assez de lumière pour qu'on y voie. Pour la nuit de Swovan, toutes les fenêtres étaient décorées de branches de pin rachitiques. Dans un coin, deux joueuses de flûte et un type qui serrait un tambour entre ses cuisses interprétaient un de ces morceaux lancinants que Matt, avec le temps, en était venu à aimer. À cette heure de la journée, il y avait quand même quelques clients. Pour l'essentiel, des marchands de passage en tenue assez sobre et des gens du cru, la plupart appartenant à l'une ou l'autre guilde. Si près du palais, on n'apercevait pas l'ombre d'un apprenti ou d'un compagnon. La vagabonde n'avait rien d'un établissement bon marché, que ce soit pour boire, manger ou dormir. Un roulement de dés à une table, dans un coin, fit écho au son qui retentissait dans la tête de Matt. Il se tourna pourtant dans l'autre sens, vers une table où étaient assis trois de ses hommes. Colosse originaire du Caïrien, Corévin, célèbre pour son énorme nez qui faisait paraître minuscule ses yeux déjà petits, était torse nu et tenait les bras en l'air, pendant que Vanin enroulait des pansements autour de son ventre. Trois fois plus gros que Corévin, Vanin avait l'air d'un tas de seins doux oubliés sur un banc. Comme toujours, sa veste donnait l'impression qu'il dormait dedans depuis 10 jours. Mais c'était le cas, même quand une servante venait de la lui apporter après l'avoir repassée. Quelques marchands jetaient des regards inquiets aux trois soldats. Pas les gens du cru, qui en avaient vu d'autres. Chef de section théarien à la mâchoire proéminente, Arnan était en train de souffler dans les bronches de Corévin.
Me fiche de ce qu'a dit le marchand de poissons, espèce d'abruti! Sers-toi de ta massue, au lieu de relever les défis de tous ces dingues qui...
En voyant Matt, le sous-officier se tut et prit l'air du type qui ne vient pas de dire ce qu'il a bel et bien dit 10 secondes plus tôt. On eût pu croire qu'il avait une rage de dents. Si Matt se renseignait, on lui répondrait que Corévin avait glissé, se blessant avec sa propre dague, ou une imbécilité de ce genre qu'il devrait faire semblant de croire. Du coup, il posa simplement les poings sur la table, comme s'il n'y avait rien d'extraordinaire à voir. En fait, c'était le cas. Parmi les hommes, Vanin était le seul à ne pas compter une bonne vingtaine de bagarres à son palmarès. Pour une raison inconnue, les amateurs de duels l'évitaient, comme Nalessehan. Mais Vanin, lui, était loin de s'en plaindre, contrairement à l'officier.
Tom ou Julien sont déjà venus ?
Demanda Matt. Vanin ne leva pas les yeux de son ouvrage.
Pas vu l'ombre d'un de ces deux gars,
répondit-il.
Nalessehan est passé, en revanche.
Chez Vanin, pas de seigneur, ni d'autres idioties du genre. Il n'aimait pas les nobles et n'en faisait pas mystère. Enfin, à l'exception regrettable d'Elaine.
Dans ta chambre, il a laissé un coffre bardé de fer. Puis il est parti en marmonnant je ne sais quoi sur des babioles.
Vanin fit mine de cracher entre ses dents de devant manquantes, mais il jeta un coup d'œil à une des serveuses et se ravisa. Maîtresse Anan frappa d'anathème quiconque osait cracher sur son sol, y jeter des eaux ou même y vider le fourneau d'une pipe.
« Le garçon est aux écuries, »
continua Vanin, avant que Matt ait pu poser la question.
« Avec son livre et une des filles de l'aubergiste. Une autre lui a flanqué une fessée pour le punir de lui avoir pincé le postérieur. »
En nouant la dernière bande de pansements, Vanin coula un regard désapprobateur à Matt, comme s'il était pour quelque chose dans les mauvaises manières d'Olver.
« Pauvre petit gars, »
marmonna Corévin, en se tordant le cou pour estimer si ses bandages resteraient en place. Sur un bras, il arborait fièrement un léopard et un sanglier. Sur l'autre, un lion et une femme qui ne semblait guère porter que ses cheveux en guise de vêtements.
Il pleurnichait après la fessée. Mais il est allé mieux quand Lérald l'a autorisé à lui tenir la main.
Tous les hommes couvaient Olver comme s'ils étaient ses oncles. Le genre d'oncle qu'une mère n'aurait pas voulu près de son fils, cela dit.
« Il s'en remettra, »
lâcha Matt. Olver devait sans doute ses mauvaises manières à ses oncles. Encore un peu, et il le ferait tatouer.
Au moins, il ne s'était pas défilé en douce pour aller vadrouiller avec les gosses des rues. Une activité qui semblait lui plaire autant que de faire sortir de leurs gonds les femmes honorables.
Arnan, tu vas attendre ici. Si tu vois Tom et Juline, empêche-les de repartir. Vanine, vois ce que tu peux apprendre au sujet du palais de Chelsain, pas très loin de la porte des Trois Tours.
Hésitant, Matt regarda autour de lui. Des serveuses sortaient de la cuisine, parfois avec des plats, mais le plus souvent avec des boissons. La plupart des clients étaient concentrés sur leur shop, à part deux femmes en veste de tisserande, qui menaient une intense conversation, penchées au-dessus de la table et ignorant leur coupe de punch. Quelques marchands semblaient en pleine négociation. De temps en temps, ils trempaient les doigts dans leur shop, écrivant des chiffres sur la table. La musique devait suffire à le protéger des oreilles indiscrètes. Pourtant, le jeune flambeur baissa la voix, pour annoncer à ses hommes que Jaishim Karidin recevait des suppôts des ténèbres. Vanin grimaça comme s'il allait cracher, et tant pis pour les représailles. Arnan marmonna quelque chose sur ses vermines de cap blanche, et Korevin suggéra de dénoncer Karidin à la garde civile. Cette proposition lui valut des regards tellement réprobateurs qu'il cacha sa honte dans sa chope de bière. Ce gaillard était à la connaissance de Matt, un des rares hommes capables de boire de la bière des Boudards par cette chaleur, ou par n'importe quelle tente bien pesée.
« Sois prudent, »
dit-il, lorsque Vanin se leva. Non qu'il fût vraiment inquiet. D'une étonnante vivacité pour un homme de son poids, Vanin était le meilleur voleur de chevaux de deux pays au moins, et il pouvait échapper à la vigilance d'un champion, mais...
« Ce sont des durs, les capes blanches comme les suppôts. »
Vanin grogna quelque chose d'inintelligible, puis il fit signe à Korevin de se rhabiller et de le suivre.
« Monseigneur, »
dit Arnan, tandis que ses compagnons s'éloignaient.
« Il paraît qu'il y a eu du brouillard dans le Rahad hier. »
Sur le point de se détourner, Matt se ravisa. Arnan paraissait inquiet, et d'habitude, rien ne l'ébranlait.
« Comment ça, du brouillard ?»
Par une chaleur pareille, une brume épaisse comme de la bouillie de flocons d'avoine n'aurait pas résisté 10 secondes.
« Un brouillard dans lequel rôdaient des... créatures. Des gens ont disparu, à ce qu'on dit. Et d'autres ont été dévorés. »
Matt réussit à ne pas frissonner.
« Ce brouillard s'est dissipé, pas vrai? Et tu n'étais pas dedans. Inquiète-toi quand ce sera le cas. C'est tout ce que tu peux faire. »
Arnan fronça les sourcils. Pourtant, il n'y avait rien d'autre à dire. Ces bulles maléfiques, comme les appelait Rand, reprenant le flambeau de Moiraine, explosaient quand ça leur chantait. Et le dragon réincarné lui-même ne pouvait rien y faire. S'angoisser à leur sujet, revenait à ne pas dormir de la nuit, de peur d'être tué le lendemain par une tuile tombée d'un toit. Non, c'était encore pire, parce que là, au moins, on pouvait décider de ne pas sortir. Cela dit, il y avait un réel motif d'inquiétude. Nalessean avait laissé les gains à l'étage. Ces maudits nobles affichaient pour l'argent un mépris que Matt ne partageait pas. Laissant Arnan à la contemplation de sa chope, il se dirigea vers l'escalier au fond de la salle, mais une des serveuses l'aborda. Mince, les lèvres sensuelles et les yeux langoureux, elle répondait au doux prénom de Keira.
« Un homme a demandé après vous, monseigneur, »
dit-elle, en lançant un regard séducteur au jeune flambeur. Sa voix aussi était langoureuse.
« Il a prétendu être un illuminateur, mais j'ai eu des doutes. Il a commandé un repas, mais maîtresse Anan a refusé, et il est parti. Le type voulait qu'elle mette son repas sur votre note.
La prochaine fois, ma colombe, ne manque pas de le servir. »
Matt glissa une couronne d'argent dans le décolleté de la belle.
« Je parlerai à maîtresse Anan. »
Matt cherchait pour de bon un illuminateur. Un vrai, pas un charlatan qui vendait des feux d'artifice remplis de sable. Mais ce n'était pas une priorité, surtout quand une petite fortune était sans surveillance. Sans parler du brouillard dans le Rahad, des suppôts de ténèbres, des Aes Sedai, de cette tailline de malheur qui ne se sentait plus et... Keira gloussa et ondula comme une chatte qu'on caresse.
« Voulez-vous que j'apporte du punch dans votre chambre, seigneur? Ou autre chose ?»
Difficile d'être plus direct, sauf à se comporter comme Tailin.
« Peut-être plus tard, »
répondit Matt en tapotant le bout du nez de la serveuse. Keira gloussa, comme elle le faisait toujours. Elle aurait volontiers relevé sa robe d'un côté pour exposer ses jupons jusqu'à mi-cuisse, voire plus haut, s'il n'y avait pas eu maîtresse Anan, une femme qui surveillait ses employés pratiquement d'aussi près que ses filles. Pratiquement.
« Oui, plus tard. »
Dans l'escalier, Matt ne tarda pas à oublier Keira. Qu'allait-il faire d'Olver? S'il pensait pouvoir traiter les femmes si cavalièrement, ce gamin aurait un jour ou l'autre des ennuis. Le mieux était sans doute de le tenir le plus loin possible d'Arnan et des autres. Ces soudards avaient une mauvaise influence sur l'enfant, ça coulait de source. Un problème de plus sur les bras d'un homme qui devait avant tout faire sortir Elaine et Nineveh des Boudards avant que ça tourne au vinaigre. La chambre de Matt donnait sur l'esplanade. Alors qu'il s'arrêtait devant la porte, il entendit le parquet du couloir craquer derrière lui. Dans une bonne centaine d'établissements, il ne s'en serait pas formalisé. Mais les parquets de la vagabonde ne grinçaient jamais. Matt se retourna juste à temps pour lâcher son chapeau de surprise et recevoir la matraque sur le poignet gauche au lieu de la tête. La violence du coup lui engourdit la main. Pourtant, il ne lâcha pas le poignet de son agresseur. Même quand des doigts noueux le saisirent à la gorge et le poussèrent contre la porte de sa chambre, que son crâne heurta violemment. Dansant devant ses yeux, des points noirs l'empêchèrent de bien voir le visage en sueur du type qui lui voulait du mal. Il distingua cependant un gros nez et des dents jaunâtres, mais vaguement, comme dans un rêve. Matt comprit soudain qu'il était sur le point de perdre connaissance. La pression de son adversaire lui coupait la circulation, empêchant le sang de monter à son cerveau. Glissant une main sous sa veste, il passa en revue les manches de ses multiples couteaux, même si ses doigts ne parvenaient plus à se rappeler à quoi ils servaient. La matraque se dégagea. Matt la vit se lever pour lui fendre le crâne en deux. Mobilisant tout ce qui lui restait de force, il dégaina un de ses couteaux et frappa. Son adversaire cria de douleur. Toujours dans sa brume, Matt eut quand même lointainement conscience que la matraque tombait vers le sol, après avoir rebondi sur son épaule. Mais le type ne lui avait toujours pas lâché la gorge. Flageolant sur ses jambes, il le repoussa, tentant de le forcer à ouvrir les doigts, tout en le lardant de coups de couteau. Soudain, le type s'écroula. Le couteau faillit échapper à Matt, qui manqua de peu s'étaler. Inspirant à fond, il s'accrocha à l'encadrement d'une porte. Sur le sol, un visage très ordinaire rivait sur lui des yeux qui ne verraient jamais plus rien. Le tueur était un colosse vêtu d'une veste bleu foncé qui aurait pu convenir à un marchand modeste ou à un boutiquier prospère. Avec sa moustache recourbée à la mode du Murundi, il n'avait pas l'air d'un voleur et encore moins d'un assassin. Matt s'avisa que son adversaire et lui, en se battant, avaient franchi une porte ouverte. Une chambre plus petite que la sienne, sans fenêtre, deux lampes posées sur une table près du lit étroit, fournissant une chiche illumination. Se détournant du grand coffre sur lequel il était penché, et qui occupait presque toute la place libre, un type blond très mince baissa sur le cadavre un regard étrange. Alors que Matt allait s'excuser de son intrusion, le blond dégaina un couteau, saisit une matraque sur le lit et sauta par-dessus le coffre, fondant sur le jeune flambeur. Ce regard, ce n'était pas celui qu'on pose sur un inconnu mort. Se tenant toujours à l'encadrement de la porte, Matt lança son couteau d'instinct, puis sa main vola sous sa tunique afin d'en dégainer un autre. Mais la lame se ficha dans la trachée artère du type, qui porta les mains à sa gorge et bascula en arrière, dans le coffre ouvert. Les jambes de Matt se dérobèrent, mais de soulagement cette fois.
« Un peu de chance ne fait jamais de mal, »
dit-il. Il se pencha, récupéra son couteau et essuya la lame sur la veste grise du mort. Un plus beau modèle que celui de son complice, également en laine, mais bien mieux coupé. Du genre qu'un seigneur de second rang n'aurait pas eu honte de porter. Un vêtement andorien, si on se fiait au col. Matt s'assit sur le lit, étudiant le cadavre écroulé sur le coffre. Mais un bruit le força à tourner la tête. Son valet personnel se tenait dans l'encadrement de la porte, tentant sans succès de cacher dans son dos une grande poêle à frire. Nérim transportait toute une batterie de casseroles et d'autres ustensiles qu'il jugeait indispensables quand on était au service d'un seigneur en voyage. Actuellement, il stockait tout ça dans la petite chambre qu'il partageait avec Olver. Même pour un kérienien, il n'était pas bien grand, et pas bien gros non plus.
« Monseigneur va encore avoir du sang sur sa veste, »
dit-il d'un ton mélancolique. Selon toute probabilité, il n'en avait pas d'autre.
« J'aimerais vraiment que Monseigneur soit plus soigneux avec ses vêtements. Enlever des taches de sang sans laisser d'auréole est très difficile. Et les mythes n'ont pas besoin de cet encouragement pour faire des trous dans le tissu. Cet endroit grouille de mythes, Seigneur. »
Pas un mot sur les deux cadavres, ni sur ce que Nérim comptait faire avec sa poêle à frire. Les cris et le boucan devaient avoir attiré l'attention. La vagabonde n'était pas le genre d'endroit où on bouclait pour un oui ou pour un non. De fait, maîtresse Anan accourait déjà, et elle écarta Nérim sans ménagement, avant de soulever ses jupes pour enjamber le premier cadavre. Son mari la suivait, un type grisonnant qui arborait à l'oreille gauche l'anneau double de la très ancienne et très honorable guilde des filets. Les deux pierres blanches, sur le plus grand anneau, indiquaient qu'il possédait d'autres bateaux que celui dont il était capitaine. Si Matt prenait garde à ne pas trop sourire aux filles de maîtresse Anan, c'était en grande partie à cause de maître Anan. Car Jasfer Anan, en plus de porter un couteau et une épée à la ceinture, était constellé de cicatrices laissées par des duels, ainsi qu'on pouvait le voir grâce au gilet qui lui découvrait les bras et une partie de la poitrine. Il avait été beaucoup blessé, certes, mais les hommes qui lui avaient infligé ses plaies gisaient tous 6 pieds sous terre. En grande partie, seulement, parce que Sétal Anan était une autre incitation à la prudence. De sa vie, Matt ne s'était jamais détourné d'une fille à cause de sa mère, fût-elle la propriétaire de l'auberge où il séjournait. Mais maîtresse Anan était une femme à part. Impassible, elle considérait les deux cadavres comme si elle réfléchissait au menu du soir. Même si ses cheveux grisonnaient, C'était une belle femme dont les rondeurs, en temps normal, auraient irrésistiblement attiré les yeux de Matt. Mais la regarder de cette façon-là, ça aurait été comme reluquer, eh bien, pas sa propre mère, non, mais plutôt une Aes Sedai, encore que ça lui était arrivé pour le plaisir des yeux. Ou encore la reine Tailin. Et dans ce dernier cas, que la lumière l'en préserve. Pourquoi cette réaction? Eh bien, maîtresse Annan était spéciale, voilà tout. Le simple fait de penser à l'offenser, d'une quelconque manière, semble être un sacrilège.
« Un de ces types m'a attaqué dans le couloir, »
dit Matt. Il flanqua un petit coup de pied dans le coffre, qui sonna creux, malgré le cadavre tombé à moitié dedans.
« Vide, à part ce vaurien. Ils devaient compter remplir ce coffre avec leur butin. »
L'or gagné aux courses? En si peu de temps, pouvait-il en avoir entendu parler? Très improbable, ça. Mais Matt demanderait quand même à maîtresse Annan de cacher le magot en lieu sûr. L'aubergiste acquiesça sereinement. Des hommes se poignardaient dans son auberge? Pas de quoi s'affoler.
Ils ont insisté pour le porter eux-mêmes. Leur stock, à ce qu'ils disaient. Ils ont pris la chambre il y a peu de temps. Pour quelques heures, histoire de dormir un peu, avant de reprendre la route de Nordchassen.
Un petit village côtier à l'est de la ville. Mais il semblait improbable que les deux types aient dit la vérité. À son ton, maîtresse Annan pensait exactement la même chose. Et elle semblait regretter de ne pas pouvoir animer les deux bandits afin de les interroger.
Au sujet de la chambre, ils se sont montrés difficiles. Le blond était le chef, je crois. Il a refusé mes trois premières propositions, puis accepté cette chambre prévue pour un seul domestique. Il devait être un peu radin. Même un voleur peut être économe,
dit distraitement Matt. Cette agression aurait pu expliquer le roulement des dés dans sa tête. Une tête qui aurait explosé comme une noix si le tueur, coup de chance miraculeux, n'avait pas marché sur la seule latte disjointe de l'auberge. Mais le bruit n'avait pas cessé. Pas de bon augure, ça.
Cette attaque était donc due au hasard, seigneur?
Je ne vois pas d'autre raison.
Maîtresse Annan n'ajouta rien, mais elle continua à lorgner dubitativement les cadavres. Au fond, elle était peut-être moins stoïque qu'on aurait pu le croire. Après tout, elle n'avait pas vu le jour à Eboudar.
Depuis quelque temps, il y a bien trop de fripouilles en ville,
dit Jasper Annan. Doté d'un timbre grave, il semblait toujours gueuler des ordres sur un pont.
Tu devrais peut-être songer à engager des gardes.
Maîtresse Annan se contenta de froncer les sourcils, mais ce fut suffisant.
Ne t'emballe pas, mon épouse. J'ai parlé sans réfléchir.
À Eboudar, les femmes étaient connues pour exprimer leur mécontentement conjugal d'une manière très tranchante. Au fond, certaines cicatrices de Maître Annan venaient peut-être de là. Le couteau de mariage pouvait avoir différents usages. Remerciant la lumière de ne pas être marié à une habitante d'Eboudar, native ou non, Matt rengaina son couteau à côté des autres. Puis il remercia la lumière de ne pas être marié tout court. Ses doigts rencontrèrent soudain du parchemin. Maîtresse Annan n'avait pas l'air de vouloir lâcher l'affaire.
« Parler sans réfléchir t'arrive souvent, mon époux, »
dit-elle, les doigts posés sur le manche de son couteau de mariage.
« Beaucoup de femmes se montreraient sévères. Et Linde me répète sans cesse que je ne suis pas assez ferme avec toi quand tu dérapes. Je dois être un bon exemple pour mes filles. »
Elle eut un petit sourire mi-figue, mi-raisin.
« Considère que je t'ai vertement tancé. Moi, je m'abstiendrai de te dire quel marin doit hisser tel filet sur tel bateau. »
« Tu es trop bonne avec moi, ma femme, »
répondit sèchement Maître Annan. À Eboudar, bizarrement, il n'y avait pas de guilde des aubergistes, mais tous les établissements étaient entre les mains d'une femme. Un homme propriétaire d'une auberge aurait été vu comme une sorte de chat noir par les superstitieux. Idem pour une femme possédant un bateau. Du coup, il n'y en avait pas une seule dans la guilde des filets. Matt déplia le carré de parchemin. Il découvrit un texte écrit en lettres capitales, comme aurait pu le faire Oliver, ou un adulte soucieux de ne pas être reconnu. Elaine et Ninevé vont trop loin. Rappelez-leur que la tour les menace toujours. Dites-leur de se montrer prudentes, ou elles seront obligées de s'agenouiller devant Elaïda pour lui demander pardon. C'était tout. Pas de signature. Menace toujours? Voilà qui suggérait qu'il n'y avait rien de nouveau. Or, ça ne collait pas avec les rapports des deux femmes avec les renégates. Non, ça, c'était sans intérêt. La véritable question n'avait aucun rapport. Qui avait glissé ce message dans la veste de Matt? De toute évidence, quelqu'un qui ne pensait pas pouvoir le lui donner plus simplement. Et qui en avait eu l'occasion, depuis qu'il avait mis cette veste le matin même? Car le message n'était pas là avant. Il en était sûr. Donc, c'était quelqu'un qui l'avait approché de près. Soudain, Matt s'aperçut qu'il fredonnait quelques notes de « Cette femme m'éblouit et embrume mon cœur ». En Altara, la chanson avait des paroles différentes et s'intitulait « À l'envers et en rond ». Seuls Teslin ou Jolin pouvaient l'avoir fait. Et c'était impossible.
« De mauvaises nouvelles, seigneur ?»
demanda maîtresse Anan. Matt rangea le message dans sa poche.
« Y a-t-il en ce monde un homme capable de comprendre les femmes ? Pas seulement les Aes Sedai. Je veux parler de toutes les femmes. »
Jasfer éclata de rire, et quand son épouse le foudroya du regard, il rit encore plus fort.
« Seigneur !»
dit maîtresse Anan, son impassibilité digne de rendre jalouse une Aes Sedai.
« S'ils écoutaient et regardaient, les hommes n'auraient aucun mal à nous comprendre. C'est nous qui ne sommes pas gâtés de devoir essayer de les comprendre. »
Des larmes roulant sur ses joues, Jasfer manqua se plier en deux de rire. Sa femme le regarda très calmement, inclina la tête, se tourna vers lui et lui flanqua sous les côtes un coup de poing à assommer un bœuf. Son rire s'étrangla, mais ça ne tarit pas son hilarité.
« Nous avons un dicton à Eboudar, seigneur, »
dit maîtresse Anan.
« Un homme est un obscur labyrinthe de ronces, dont il est lui-même incapable de trouver la sortie. »
Matt émit un grognement. « Une aide précieuse, ça. » « Alors, Jolene ou Tesline ? Ou quelqu'un d'autre ?» Ce devait être quelqu'un d'autre, même s'il ne voyait pas trop qui. De toute façon, la Tour Blanche était très loin d'ici. Pas Jaishim Karidin. Matt baissa les yeux sur les deux morts. Deux bandits parmi d'autres, tués dans l'exercice de leur profession comme tant d'autres. Quoi qu'il arrive, Matt ferait en sorte qu'Elaine et Nineveh sortent vivantes des Boudards. Mais comment s'y prendrait-il ? Eh bien, il n'en avait pas la moindre idée. Si seulement ces maudites idées avaient bien voulu cesser de rouler. Les appartements que Jolene partageait avec Tesline étaient très spacieux. Un salon, une chambre pour chacune, même chose pour leur servante, et une cinquième, qui aurait tout à fait convenu pour Blaïric et Fenn, si Tesline avait supporté d'avoir si près d'elle les champions de sa collègue. Cette femme considérait chaque homme comme un loup enragé, et quand elle avait une idée dans la tête, il n'y avait pas moyen de la lui enlever. Aussi impitoyable qu'Elaïda, elle écrabouillait tout ce qui se dressait sur son chemin. Jolene était son égale en tout point, certes, mais peu de gens parvenaient à prendre le dessus sur Tesline sans disposer d'un avantage écrasant. Quand Jolene entra dans le salon, sa collègue était assise au bureau, sa plume produisant des grincements affreux, même avec l'encre, elle se montrait radine. Sans un mot, Jolene passa à côté de la sœur rouge et sortit sur le balcon de fer forgé peint en blanc. Avec des volutes si serrées, les hommes qui travaillaient dans le jardin, trois niveaux plus bas, devaient avoir du mal à voir qu'il y avait quelqu'un. Dans cette région, les fleurs adoraient en général la chaleur, composant de magnifiques parterres aux couleurs vives. Là, il n'y avait rien. Les jardiniers allaient et venaient dans les allées avec des seaux d'eau, pourtant, tous les végétaux étaient jaunes, voire bruns. Même si elle ne l'aurait pas admis sous la torture, Jolene était effrayée par cette chaleur. Le ténébreux étendait son influence sur le monde, dont le seul espoir était un garçon en train de devenir fou.
« Au pain sec et à l'eau !»
lança soudain Tesline.
« Expédiez le jeune Matt Cotton à la tour. Si nos plans sont modifiés, je te serai reconnaissante de m'en informer avant de le raconter à tout le monde. Je devais forcer Merylil à en rabattre. »
se justifia Jolene, mal à l'aise.
« Quand j'étais novice, j'ai suivi ses cours. »
Et ceux de Tesline, une enseignante qui tenait sa classe d'une main de fer. La façon dont elle venait de parler était une sorte de rappel à l'ordre. Égal ou non, Jolene n'avait pas intérêt à se dresser contre son ancienne formatrice. Cela dit, Merylil était désormais au-dessous du niveau de Tesline.
Elle aimait bien forcer une novice à se tenir debout devant les autres, et elle la harcelait de questions pour obtenir la réponse qu'elle désirait. Au bout du compte, la victime éclatait en sanglots. À ce moment-là, Merylil faisait mine de compatir, ou compatissait pour de bon, je n'ai jamais su. Et plus elle consolait la fille, plus celle-ci se décomposait.
Jolene se tut brusquement. Elle n'avait pas eu l'intention de raconter tout ça, mais au fond, c'était la faute de Tesline, avec son air d'être toujours prête à lui passer un savon parce qu'elle avait taché sa robe. Cela posé, elle devait comprendre, parce qu'elle avait également été l'élève de Merylil.
« Depuis tout ce temps, tu n'as pas oublié ?»
s'étonna Tesline.
« Les sœurs qui nous forment font leur devoir, tout simplement. Parfois, j'en arrive à penser que tout ce qu'Elaïda dit de toi est vrai. »
L'agaçant grincement de plume recommença.
« Eh bien... ça m'est revenu à l'esprit, quand Merylil s'est comportée comme si elle était vraiment une émissaire. »
Au lieu d'une renégate. Sourcils froncés, Jolene se perdit un moment dans l'observation du jardin. Elle détestait toutes ces femmes qui avaient détruit l'unité de la tour et s'en vantait à la face du monde. Ses sœurs et tous les gens qui les aidaient. Mais Elaïda s'était elle aussi gravement trompée. Avec du doigté et la volonté de réussir, les renégates auraient pu être ramenées au bercail.
« Que dit-elle de moi, Tesline ?»
Le grincement continua.
Que dit Elaïda de moi ?
Demanda de nouveau Jolene en rentrant dans le salon. Tesline posa une nouvelle feuille sur sa lettre. Peut-être pour sécher l'encre, ou pour que Jolene ne voie pas le texte. Ne répondant pas tout de suite, elle foudroya des yeux sa collègue, ou la regarda simplement. Avec elle, c'était difficile à dire, et soupira.
Si tu y tiens, elle dit que tu es toujours une enfant. Une enfant ?
L'indignation de Jolene n'eut aucun effet sur sa collègue.
Certaines filles changent très peu, à partir du jour où elles mettent une robe de novice. Et d'autres ne changent pas du tout. Elaïda pense que tu n'as pas grandi et que tu ne grandiras jamais.
Jolene se contrôla assez pour ne pas répondre à ce qui lui brûlait les lèvres. Entendre ça d'une femme qui avait reçu le châle à un âge si précoce que sa propre mère devait encore être une gamine. Novice, Elaïda avait été traitée avec tous les égards, parce qu'elle était très puissante dans le pouvoir et faisait montre de grandes facilités à apprendre. Presque à coup sûr, c'était pour ça qu'elle détestait Elaine et Gwen et la naturelle Nineveh. Parce qu'elles étaient plus puissantes qu'elle, bien sûr, mais aussi parce qu'elles étaient restées novices puis acceptées moins longtemps qu'elle. À tort, selon Jolene. Mais c'était une autre affaire. En fait, Nineveh n'avait même jamais été novice, un cas unique dans l'histoire.
« Pour en revenir au pain sec et à l'eau, »
dit Tesline,
« nous devrions peut-être tirer parti de la situation. Que veux-tu dire ?»
Jolene s'unit à la source authentique et canalisa un flux d'air pour soulever la carafe en argent posée sur un guéridon incrusté de turquoise et lui faire remplir une coupe de punch. Comme toujours, l'euphorie du contact avec le Saïdar la submergea, source d'excitation et d'apaisement combinée.
« Ce n'est pas évident, »
répliqua Tesline.
Les ordres d'Elaïda tiennent toujours. Elaine et Nineveh doivent être ramenées à la tour dès que nous leur mettrons la main dessus. J'ai été d'accord pour attendre, mais ce temps-là est peut-être révolu. Dommage qu'Egwen ne soit pas avec elle. Mais ramener deux brebis égarées nous remettra dans les bonnes grâces d'Elaïda. Et si nous pouvons ajouter Matt Cotton à ce lot, trois prises pareilles nous vaudront un aussi bon accueil que de rentrer avec Randall Thor en personne. Et cette fille, Avienda, fera une bonne novice, qu'elle soit naturelle ou non.
Quand la coupe eut l'éviter jusque dans sa main, Jolene se sépara à regret du pouvoir. Depuis son premier contact avec le Saïdar, elle n'avait pas perdu une once de son enthousiasme, et le punch au melon faisait un bien piètre substitut. Avant son départ de la tour, sa pénitence la plus dure avait été de s'abstenir de toucher au pouvoir. Jolene avait choisi elle-même son châtiment, après qu'Elaïda eut clairement menacé de s'en charger si elle refusait de le faire. Sans nul doute, le résultat aurait été bien pire.
Les bonnes grâces d'Elaïda ? Tesline, elle nous a humiliés, simplement pour montrer aux autres l'étendue de son pouvoir. Elle nous a expédiés dans ce trou à rats, le plus loin possible de tout endroit susceptible d'être important, à part peut-être l'autre rive de l'océan d'Arit. Émissaire auprès d'une reine qui a moins de pouvoir qu'une dizaine de nobles, chacun étant en mesure de lui prendre sa couronne si ça l'intéressait. Et tu voudrais que nous revenions en grâce ? Elle est la chair d'Amirline,
lâcha Tesline. Elle saisit la lettre qu'elle était en train d'écrire, la poussant de droite à gauche, comme si ça l'aidait à se concentrer.
Ne pas donner de nouvelles pendant un temps était une façon d'affirmer notre indépendance. Continuer finirait par passer pour une trahison. Absurde ! Quand Elaine et Nineveh seront à la tour, on les punira pour s'être enfuis et pour avoir prétendu être des sœurs.
Jolene pinça les lèvres. Elaine et Nineveh étaient coupables toutes les deux, au même titre que leurs complices, soit dit en passant. Mais que l'une des deux ait prétendu être du même âge que Jolene faisait à ses yeux une grande différence. Quand l'âge avert en aurait fini avec Elaine, la jeune femme qui monterait sur le trône du lion n'aurait plus rien à voir avec une gamine arrogante. Cela dit, il vaudrait peut-être mieux qu'Elaine commence par être couronnée. Dans tous les cas, il fallait que sa formation aille jusqu'à son terme. Quoi qu'elle ait fait, il ne fallait pas que cette fille soit perdue pour la tour.
N'oublie pas qu'elles se sont aussi jointes à la rébellion. Elles ont sans doute été recrutées de force, comme les filles de la tour que les renégats t'ont emmenées. Qui se soucie qu'elles commencent à nettoyer les écuries demain ou l'année prochaine ?
Ce serait la punition infligée aux novices et aux acceptés partis avec les rebelles.
Même les Aja peuvent attendre de les reprendre en main. Ne sont-elles pas en sécurité ? Après tout, ce sont des acceptés, et elles paraissent ravies d'être à un endroit où nous pouvons nous assurer d'elles quand nous le voudrons. Pour l'instant, restons donc où Elaïda nous a envoyés, et continuons à ne rien faire et à tenir nos langues, jusqu'à ce que la chair d'Amirline nous demande poliment ce que nous fichons.
Jolene ne précisa pas qu'elle était disposée à attendre jusqu'à ce qu'Elaïda soit renversée, comme l'avait été Siouan. En toute logique, le hall n'accepterait pas éternellement d'être maltraité. Mais Tesline, une sœur rouge, risquait de ne pas aimer entendre ça.
« J'imagine qu'il n'y a pas d'urgence, »
dit-elle, dubitative. Jolene tissa un nouveau flux d'air pour tirer près du bureau un fauteuil dans lequel elle prit place avec la ferme intention de convaincre sa compagne que le silence restait leur meilleure stratégie. Encore une enfant ? S'il ne tenait qu'à elle, Elaïda devrait supplier pour avoir des nouvelles des Boudards. La femme ligotée sur la table arqua le dos autant que ses liens le lui permettaient. Les yeux exorbités, elle poussa un cri qui s'étrangla très vite dans sa gorge. Puis des spasmes la secouèrent des poignets jusqu'aux chevilles. Enfin, elle se tut et retomba sur la table, ses yeux déjà vitreux fixant sans le voir le plafond constellé de toiles d'araignées de la cave. Même si jurer était un comportement irrationnel, Falion avait un répertoire qui aurait fait rougir un charretier. Pour la énième fois, elle regretta de ne pas avoir Temeil avec elle au lieu d'Ispan. Avec Temeil, on obtenait des réponses, et personne ne mourait avant qu'elle l'ait décidé. Certes, elle prenait un peu trop de plaisir à l'ouvrage, mais c'était une autre affaire. Utilisant le pouvoir, Falion fit léviter les frusques de la morte, entassées sur le sol crasseux, puis les laissa retomber sur le cadavre. La ceinture rouge tomba. La ramassant à la main, Falion la reposa sur le tas infâme. Plutôt que le Saïdar, elle aurait peut-être dû utiliser d'autres méthodes. Mais le fouet, les tenailles et les fers chauffés rouges étaient si... salissants.
Abandonnez le cadavre dans une ruelle après l'avoir égorgé, pour qu'on croie à un vol. Vous pourrez garder les pièces de monnaie, si elle en a.
Les deux hommes accroupis dos contre le mur se regardèrent. Arnin et Nad auraient pu être frères, tant ils se ressemblaient. Des types aux cheveux noirs couverts de cicatrices, assez musclés à eux deux pour fournir au moins trois hommes normaux, et dotés de cerveaux qui n'auraient pas suffi pour un seul. Cela dit, dans leur bon jour, ils étaient capables d'exécuter des ordres simples.
« Pardonne-moi, maîtresse, »
dit Arnin.
« Mais personne ne croira. »«
Obéis-moi !»
cria Falion. Avec le pouvoir, elle força le type à se relever et le plaqua violemment contre le mur. Sa tête rebondit sèchement. Mais il n'y avait rien à abîmer dedans.
« Oui, maîtresse, à tes ordres, maîtresse !»
fit Nad en se précipitant vers la table. Falion relâcha Arnin, qui ne dit rien, mais se hâta d'aller aider son compagnon à retirer la charogne de la table. Oui, cette femme ne valait pas mieux qu'une carcasse désormais. Quant à son éclat, Falion le regrettait déjà. La colère était irrationnelle. Pourtant, elle se révélait très efficace à l'occasion. Après tant d'années, ça la surprenait toujours.
« Morgadien n'aimera pas ça, »
dit Ispan, dès que les deux hommes furent sortis. Les perles bleues et vertes qui ornaient ses nattes noires cliquetèrent quand elle secoua la tête. Pendant toute la séance, elle était restée dans l'ombre, à l'abri d'une protection sonore qu'elle avait tissée pour ne rien entendre. Falion réussit de justesse à ne pas foudroyer du regard son assistante. Ispan était bien la dernière personne qu'elle aurait choisie. Une sœur bleue. Anciennement bleu, ou peut-être encore bleu. Depuis qu'elle avait rejoint l'âge à noir, Falion n'en continuait pas moins à se sentir comme une sœur blanche. Mais les sœurs bleues, trop passionnées, mêlaient leurs émotions à des sujets qui requéraient, au contraire, une froide objectivité. Si elle avait pu choisir, Falion aurait opté pour Rihanna, une sœur blanche comme elle, avec quelques lacunes sur le plan de la logique, cependant.
« Ispan, Morgadien nous a oubliés. Où as-tu reçu de ces nouvelles ?» De toute façon, je reste convaincu que cette cachette miraculeuse n'existe pas. Morgadien affirme le contraire,
fit Ispan, ferme et sereine. Mais elle s'échauffa vite.
Un endroit plein d'engréal, de saengréal et de terrengréal. Nous aurons notre part du trésor. Un engréal bien à nous, Falion. Peut-être même un saengréal. Morgadien a promis. Morgadien se trompe.
Falion étudia le visage stupéfait d'Ispan. Pourtant, les élus n'étaient que des êtres humains. Le découvrir avait été également un choc pour Falion, mais certaines personnes refusaient de voir la vérité en face. Les élus étaient certes très puissants, pleins d'incroyables connaissances, et il se pouvait bien qu'ils aient déjà reçu leur récompense, à savoir l'immortalité. Cela dit, ils complotaient les uns contre les autres, et s'affrontaient aussi brutalement que deux Mourandiens qui se disputent une couverture. À peine remise de sa surprise, Ispan lâcha la bombe à sa colère.
« D'autres personnes cherchent cette cachette. Des imbéciles ? Dans le lot. « Il y a des suppôts des ténèbres, très probablement au service d'autres élus. Tu continues à dire qu'il n'y a rien à trouver ?»
Ispan était irrécupérable. Quand on ne parvenait pas à trouver quelque chose, le plus souvent, c'était parce qu'il n'y avait rien à chercher. Falion attendit. Ispan n'était pas stupide, seulement très impressionnable. Laisser les gens découvrir tout seuls ce qui aurait dû leur crever les yeux était une façon de stimuler les esprits paresseux. Ispan marcha de long en large dans la cave, en foudroyant du regard les toiles d'araignée et la poussière.
Cet endroit pue et grouille de vermine. »
Avisant un gros cafard qui rampait le long d'un mur, Ispan s'unit à la source. Alors que l'aura du Saïdar l'enveloppait, un flux vint écrabouiller l'immonde bestiole. Avec une grimace, Ispan s'essuya les mains sur le devant de sa robe, comme s'il les avait utilisées au lieu de recourir au pouvoir. Décidément, elle était bien délicate. Au moins, elle ne vomissait pas quand elle avait un moyen de se tenir à l'écart des actions salissantes.
Thalion, je ne rendrai pas compte de cet échec à Mogadienne. Elle nous châtirait à nous en faire envier le sort de Lyandrin.
Thalion ne tressaillit pas, mais elle traversa la cave et alla se servir une coupe de punch aux prunes. Les fruits étant trop mûrs, la boisson se révéla trop sucrée, mais au moins, ses mains occupées à tenir la coupe ne tremblèrent pas. Avoir peur de Mogadienne était tout à fait logique. En revanche, s'abandonner à l'angoisse ne l'était pas. Après tout, l'élue était peut-être morte. Sinon, ne les aurait-elle pas déjà convoqués ou entraînés pendant leur sommeil dans le monde des rêves, comme elle l'avait déjà fait, afin qu'elle lui dise pourquoi elle n'avait toujours pas exécuté ses ordres? Cependant, jusqu'à ce qu'elle ait vu sa dépouille, Thalion devait continuer à raisonner comme si Mogadienne avait pu débouler à n'importe quel moment.
« Il y a un moyen. Lequel ? Torturer toutes les guérisseuses des Boudards ? Combien y en a-t-il ? 100 ? 200 ? Les sœurs qui résident au palais Tarasid s'en apercevraient, je le crains. Ispan, oublie ton désir de posséder un Saangreal. Il n'y a pas de cachette secrète, imposez tout. »
Thalion avait pris un ton détaché, inversement proportionnel à l'excitation de son interlocutrice. Depuis toujours, elle adorait hypnotiser une entière classe de novices par le simple son de sa voix.
« Presque toutes les guérisseuses sont des naturelles, peu susceptibles de savoir ce qui nous intéresse. Dans l'histoire, on n'a jamais trouvé une naturelle en possession d'un Angréal ou d'un Saangréal, et s'il y en avait une, elle aurait sûrement été découverte. Comme l'attestent toutes les archives, une naturelle qui trouve un artefact lié au pouvoir s'en débarrasse le plus vite possible, pour ne pas s'attirer l'ire de la Tour Blanche. Les femmes chassées de la Tour, en revanche, ne semblent pas partager cette angoisse. Comme tu le sais, quand on les fouille avant de les expulser, on trouve une fois sur trois un artefact lié au pouvoir, ou considéré comme tel par la voleuse. Parmi les quelques guérisseuses qui correspondent à ce critère, Kali était le meilleur choix. Quand elle a été expulsée il y a 4 ans, elle a tenté de voler un petit Terangréal, un artefact inutile qui générait des images de fleurs et le bruit d'une cascade. Néanmoins, c'était un objet lié au Saïdar. Elle a aussi essayé, avec un grand succès, de découvrir les secrets des autres novices. S'il y avait eu un seul Angréal à Iboudar, sans parler d'une collection, tu crois qu'elle aurait vécu 4 ans ici sans le localiser ? Thalion, je porte le châle, comme toi, et je sais tout ça. Tu as dit qu'il devait y avoir un moyen. Lequel ?
Cette femme refusait obstinément d'utiliser son cerveau.
Qu'est-ce qui peut satisfaire Mogadienne autant que la découverte de cette cachette ?
Ispan se contenta de regarder Thalion en tapant nerveusement du pied.
Nineveh Almehara, Ispan ! Mogadienne nous a abandonnés pour se lancer à sa poursuite. Mais à l'évidence, elle est toujours bredouille. Si nous livrons Nineveh avec Elaine en prime à Mogadienne, elle nous pardonnera de ne pas avoir trouvé sens à Angréal.
La preuve que les élus pouvaient se montrer parfaitement irrationnels. Et face à des gens à la fois irrationnels et très puissants, il convenait de rester prudent. Mais Ispan n'était pas plus puissante que Thalion.
Nous aurions dû tuer Nineveh dès qu'elle est arrivée,
marmonna-t-elle en tournant en rond dans la cave comme une lionne en cage.
Oui, oui, je sais. Les sœurs qui vivent au palais auraient pu avoir des soupçons. Et nous ne voulions pas attirer leur attention. Mais as-tu oublié Tanchiko ? Et Théar ? Quand ces deux femmes se montrent quelque part, c'est le désastre assuré. Si nous ne parvenons pas à les tuer, mieux vaut nous tenir le plus loin possible de Nineveh Almehara et d'Elaine Trakand. Oui, le plus loin !
Du calme, Ispan.
Le ton apaisant de Thalion énerva encore plus sa compagne. Mais il ne fallait pas renoncer. Tôt ou tard, la logique finissait par prendre le dessus sur les émotions. Assis sur un tonneau renversé, dans une allée obscure à la fraîcheur toute relative, l'homme étudiait le bâtiment, de l'autre côté de la rue grouillant de monde. Soudain, il s'avisa qu'il touchait de nouveau sa tête. Elle ne lui faisait pas mal, mais... eh bien, quelque chose clochait. Le plus souvent, quand il pensait à ce qu'il était incapable de se rappeler. Haute de 3 niveaux, la maison appartenait à une joaillière, censée recevoir la visite de 2 amis qu'elle avait rencontrés lors d'un voyage dans le Nord, quelques années plus tôt. Les amis en question, à peine aperçus le jour de leur arrivée, ne s'étaient pas remontrés depuis. Découvrir ça n'avait pas été dur. Identifier des Aes Sedai n'avait pas été compliqué non plus. Un mince jeune homme, vêtu d'une veste déchirée, descendait la rue en sifflant et en nourrissant de sombres idées. Apercevant l'homme sur son tonneau, il s'arrêta. L'homme dut admettre que sa veste, sa position en retrait et le reste de sa personne avaient de quoi tenter un voleur. Les deux couteaux à longue lame qu'il portait depuis plus de 30 ans avaient surpris plus d'un fier escrimeur. Peut-être parce qu'il lut quelque chose dans les yeux de sa proie potentielle, le jeune type changea de plan et repartit en sifflant. La porte des écuries de la joaillière, attenante à la maison, s'ouvrit soudain pour laisser passer deux costauds poussant une brouette remplie de fumier et de paille. Qu'est-ce que ça voulait dire? Arnine et Nad n'étaient pas du genre à nettoyer une écurie. L'homme décida de rester où il était jusqu'à la tombée de la nuit. Ensuite, il essaierait de retrouver la jolie petite tueuse de Caridine. Une nouvelle fois, il écarta sa main de sa tête. Tôt ou tard, il se souviendrait. S'il n'avait pas beaucoup de temps devant lui, il ne lui restait rien d'autre, de toute façon. Ça, au moins, il s'en souvenait.